et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a le droit de marquer un gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, l'éducation des jeunes, en font totalement irresponsable.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Salut à tous, bienvenue au Canu Info du vendredi. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler tout d'abord un petit retour sur les manifestations, sur les mobilisations de cette semaine. On continuera avec une petite rubrique sur le collectif Puce en lutte, avant de parler du Ground Zero avec un super reportage. Et à la suite de ça, il y aura une rubrique sur le gaz de schiste. Et puis, on parlera de comment le gouvernement fait des lois anti-migrants en cachette. Et oui. Et on parlera de Wissam El Miamni. Ensuite, dans la rubrique internationale, on parlera des accords entre la Turquie et l'UE, avant de faire un petit point sur l'agenda de la semaine.
On commence donc par un retour sur la mobilisation à Lyon et ailleurs en France cette semaine et les semaines précédentes un petit peu, enfin surtout cette semaine.
Oui, surtout cette semaine, donc on va commencer par Lyon. Donc à la suite de la manifestation donc du 9 mars, il y a eu le 10 mars, donc le lendemain, un rassemblement de soutien aux inculpés, donc 50 personnes au tribunal de grande instance. Donc un jeune homme qui avait reconnu un plaquage sur un baqueux façon rugby s'en sort quand même donc avec enfin s'en sort 6 mois ferme. Donc il s'en sort pas vraiment, sans mandat de dépôt et 1000 euros de préjudice pour les deux policiers. Le troisième inculpé, donc un étudiant, écope de 6 mois avec sursis pour jet de projectile plus 800 euros de dommages et intérêts. Donc pour les 4 policiers qui se sont constitués partie civile. Ensuite, toujours à Lyon, donc le 12 mars, il y a eu une manifestation contre l'état d'urgence. Le 15 mars, manifestation pour la défense de la Convention 66 dans le secteur social et médico-social. Le lendemain, le 16, il y a eu une arrestation d'un manifestant à la fac de Lyon 2. Avec intervention de la police donc au sein de la fac. Le 17 mars, hier, donc une manifestation, de nouveau contre la loi de travail. Donc il y avait environ 7000 personnes donc l'arrivée était place Guichard avec une AG à la fin de la manif. Avec une forte présence policière tout au long de la manifestation. Et notamment il y a quatre manifestants qui ont été arrêtés donc plutôt en fin de manifestation. Donc voilà pour Lyon.
Ok, super. Si on peut juste revenir du coup sur ce qui s'est passé à Lyon 2 mercredi soir. Du coup, c'est très simple en fait. Il y avait une assemblée générale interfac sur la fac des quais de Lyon 2. Et puis il y a 2 ou 3 vigiles qui sont rentrés dans l'amphi et qui sont dans lequel se déroulait l'assemblée générale et qui sont allés chercher un étudiant pour lui dire sors, voilà, on a des choses à te dire. Et il s'est fait, du coup, en fait, les vigiles l'ont remis directement aux flics qui attendaient gentiment devant l'amphi. Donc, du coup, l'étudiant s'est fait embarquer au commissariat. Et donc, attention, il est accusé d'avoir fait un tag dans les toilettes.
Ouh là là.
Ah ouais, mais surtout qu'il est accusé parce qu'il était avec une bombe de peinture. Donc, c'est-à-dire qu'en plein mouvement sur une fac, avec tout le monde qui fait des banderoles de partout, avoir une bombe de peinture dans la fac, il va falloir plus de place à Marius Berlier. Donc à Lyon 2, on peut rappeler quand même que les liens sont de plus en plus importants avec la police. Par exemple, l'intervention des flics lors du rassemblement en soutien aux étudiants sans papier le mois dernier. Et donc les facs avaient d'ailleurs été bloquées jeudi et vendredi, enfin les facs de Lyon 2 sur les quais et à Bron, administrativement par la présidence pour éviter du coup le blocage, mais surtout l'organisation des étudiants et des étudiantes.
Et hier, du coup, petit retour sur la manif. Hier, c'était jeudi 17 mars et c'est chargé de beaucoup d'envie que les manifestants se sont rejoints à midi, place Bellecour. Alors, par rapport à mercredi 9 mars, où il y avait à peu près 60 000 personnes à Lyon, ce qui est pas mal, on n'avait pas vu autant de monde depuis 2010. Cette fois-ci, il y avait un peu moins de monde, à peu près 6 500, mais ils étaient très majoritairement jeunes, lycéens, et étudiants, pas que, puisqu'on a pu aussi voir, mais beaucoup moins nombreux que la semaine dernière, des drapeaux syndicaux et de quelques partis, mais aussi le service d'ordre de la CGT, particulièrement appliqué à tout faire pour que les manifestants respectent la police. Et ils n'y sont pas complètement arrivés. Et au-delà du service d'ordre de la CGT, la police avait sorti les gros moyens et barricadé la préfecture pour que personne ne puisse même entrer dans les rues qui mènent à cette préfecture. Et comment ils barricadent les flics? Eh bien, ils déplient, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait hier, de grandes grilles amovibles. C'est assez impressionnant, notamment parce que derrière ces grilles, on voit se tiennent bien droit des robocops surarmés et bien vénères. Et quand il n'y en a pas dans la rue des grilles et des CRS, mais qu'il y a juste un petit parc pour mener par exemple à la préfecture, eh bien les malins, ils mettent un CRS en dessous de chaque arbre du parc. On a pu voir ça, c'était assez joli, ça fait des belles photos.
Bleu, marron et vert, ça va bien ensemble.
Voilà. Et autrement, en autre type de dispositif pour empêcher que tout parte en sucette, on a pu notamment compter deux gros camions armés de lance à eau et plein de cars de CRS, ça c'est plus classique, disséminés un petit peu partout sur le parcours, les flics, les baqueux et bien sûr l'hélicoptère qui est désormais traditionnel depuis au moins 2010 à Lyon, hein, dès qu'il y a un mouvement un peu vénère. Bref, franchement, ça montre quand même qu'ils ont un peu très peur ou alors qu'ils veulent tout verrouiller pour être sûr que le mouvement ne prenne pas, peut-être l'un ou peut-être l'autre. Donc hier, les 6000 manifestants sont d'abord partis en cortège à partir de la place Bellecour. Ils ont remonté la presqu'île, puis ils ont traversé le Rhône, ils l'ont remonté dans l'autre sens, sur la rive gauche, avant de s'enfoncer rue de la Pardieu, la seule rue qui n'avait pas été grillagé par le dispositif policier. Tout le monde s'est enfin retrouvé, comme on vous le disait tout à l'heure au début de l'émission, place Guichard, devant la Bourse du Travail. Et là, étudiants et lycéens ont voulu partir en manif sauvage. Mais la police s'est interposée en lançant un petit peu moins de gaz lacrymo que mercredi dernier, mais quand même un peu. Et ils ont aussi un petit peu utilisé le flashball et le taser, mais avec parcimonie cette fois-ci. Pendant ce temps-là, les gros bras de la CGT, les gentils étudiants de l'UNEF et des militants, des jeunes communistes hurlaient aux manifestants qui continuaient à s'opposer à la police qu'il fallait arrêter de faire n'importe quoi, de décrédibiliser le mouvement, d'être violent et patati et patata, et qu'il valait mieux tous s'asseoir pour discuter en AG et écouter les leaders étudiants. Alors ça n'a pas complètement marché, quand même un petit peu. Et par contre, au bout d'un moment, il n'y avait plus grand monde pour essayer de forcer la ligne de CRS et partir en manif. Donc tout le monde s'est replié et un peu de temps a passé, l'AG s'est terminé à son tour et là, les baqueux, comme des lâches, sont tombés sur deux gars notamment qui les ont arrêtés. Donc au total, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu sans doute 4 arrestations. Et voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé ailleurs en France cette semaine ?
Et peut-être juste pour revenir avant l'ailleurs en France, quand même, là, les baqueux, ils ont chargé juste après l'AG, donc cette histoire de quand on est en AG, on est pacifiste et tout, il se passe rien. Ils avaient repéré des gens et pendant que la fin de l'AG, les gens discutaient sur la place, et en fait, là, le service d'ordre de la CGT n'était pas là pour arrêter les baqueux qui ont foncé sur des gens, les ont traînés au sol et les ont arrêtés.
Donc ça c'était pour Lyon et à Paris donc le 10 mars il y a eu des blocus sur différents lycées et une manifestation sauvage qui allait jusqu'au local d'un parti socialiste du parti socialiste qui a été défoncé. Et puis la semaine suivante des manifestations lycéennes, manifs sauvages dans tout Paris. Il y a eu à ce moment-là quelques jets de pierre sur pas mal de vitrines de banques, des assurances, et une opération d'autoréduction. Et puis ensuite, la manif a rejoint le cortège syndical et étudiant, donc toutes ces manifs. Et à ce moment-là, il y a eu pas mal d'échauffourées avec la police, voilà, tout au long du cortège. Le même jour, il y a eu une tentative d'occupation de l'université Tolbiac qui a été fermée administrativement et tout le monde a été expulsé par les CRS. Résultat des courses, il y a eu un bras cassé, une personne aux urgences avec le crâne ouvert, plusieurs blessés et plusieurs arrestations.
À Besançon, le 12 mars, il y a eu manifestations de mécontentement. Alors, lors de la permanence du PS, deux inscriptions ont été taguées à la bombe sur la vitrine et le mur. D'un côté, pourriture sociale, en couleur noire. De l'autre, contre votre monde de képi, peint en rouge et en caractère de 3 mètres de hauteur. Et le même jour, lors de la permanence de Jacques Grosperrin, des Républicains, de l'alcool a été projeté dans la serrure de la porte d'entrée pour la rendre inutilisable. Et la vitrine a été recouverte de graffiti.
Ensuite, à Tours, le 10 mars, en plus de la fac des Tanneurs, plusieurs lycées de Tours sont bloqués. Les élèves ont rejoint par dizaines la manif des retraités. Le 16 mars, il y a eu l'occupation du local du PS. Toute une foule a pénétré dans la maison qu'occupe le PS en balançant des cotillons, des serpentins en fil des étages. La salariée présente s'est empressée d'appeler le commissariat à la rescousse, mais l'arrivée d'une bagnole de flics n'a pas suffi à gâcher l'ambiance. Un concert a été improvisé au dernier étage. Les murs ont été retapissés de tracts demandant le retrait de la loi travail et critiquant la relation incestueuse entre le PS et le MEDEF. Le tout dans une ambiance très bonne enfant.
Il y en a qui savent faire la
fête. Et le 17 mars, donc dès l'aube, 5 lycées de Tours étaient au moins partiellement bloqués. Une demi-heure avant l'horaire prévu de la manifestation, plusieurs centaines de lycéens et d'étudiants s'étaient déjà rassemblés. Ils ont remonté en cortège pour rejoindre le lieu de la manifestation.
Et à Marseille, bien sûr, les facs sont bloquées. Et le 17 mars, c'est dès 8h que des manifs sauvages de lycéens et de lycéennes dans le centre se promènent un petit peu partout. Un peu plus tard, les militants de la CGT occupent pendant un moment le local du MEDEF. Alors, c'est pas le PS, que si c'est le MEDEF. À 11h, il y a eu une grande manifestation en direction de la préfecture. Mais à midi, sur la Canebière, à peu près 2000 personnes échangent coups et pierres contre gaz des flics qui finissent quand même par arrêter au moins 2 personnes. Ensuite, un rassemblement devant le commissariat pour essayer de libérer ces 2 personnes, où à nouveau, un gaz lacrymo et pierre lancée. Avant, une nouvelle AG à la fac de Saint-Charles qui se termine vers 18h. Aujourd'hui, il y a eu un rassemblement en soutien aux arrêtés du jour d'avant. Alors, je crois que c'est pas encore fini, donc si vous écoutez de Marseille sur l'Internet mondial, vous pouvez vous précipiter au tribunal de grande instance de Marseille. Et donc voilà, en espérant que toutes ces petites brèves d'action sur cette semaine vous donnent des idées, mais si vous voulez mettre en place ces idées, peut-être 1 ou 2 conseils à mettre en place.
Et oui, les fameux conseils en manif qu'on peut aussi retrouver sur Rebellion. Donc là, on va juste vous donner les principaux. Alors l'idée, c'est qu'avant les manifs, on essaye, quand vous y allez, vous essayez de vous mettre en binôme ou en trinôme. Vous n'y allez pas tout seul. Et le mieux, c'est même de faire un grand groupe de plusieurs binômes et trinômes pour vérifier après la manif que les binômes ou les trinômes ne se soient pas fait arrêter. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on prend pas sur soi? On évite d'avoir des carnets d'adresses avec toutes les adresses des copains et les numéros de téléphone. Les portables, on les éteint quand on voit que ça chauffe trop, parce que si on se fait arrêter, les téléphones sont fouillés, les numéros sont pris. De l'eau, de la bouffe, ça peut être pas mal. Un foulard aussi, du sérum physiologique et le nom ou le numéro d'un avocat si jamais vous vous faites arrêter. Pendant la manif, quel conseil on peut avoir? Alors, déjà, se rappeler que la première arme de la police, c'est la peur, et que ça joue beaucoup sur les mouvements de panique. Donc, essayez au maximum de rester calme. Les charges des flics, elles dépassent rarement 50 mètres. Donc, au-delà de cette distance, ça sert à rien de courir plus, à part accroître la panique. Ce qu'il faut surveiller dans la manif, c'est la BAC, parce qu'en fait, c'est la BAC qui va venir faire des arrestations et qui est un peu en freelance et qui va faire des allers-retours derrière les lignes de CRS. Et c'est vraiment eux qui vont pouvoir arrêter des gens.
Ce qui est parfois un peu difficile parce qu'ils mettent leurs brassards, ils les retirent, ouais.
C'est un peu ce qui s'est passé à la fin de la manif d'ailleurs. C'est les BAC qui ont fait la première approche. Et dès qu'ils ont fondu sur les 2 personnes qui voulaient arrêter, il y a toutes les lignes de CRS qui sont venues et qui ont tout verrouillé. Voilà.
Et oui, oui. Donc, les bandes de 5-6 types vachement baraques avec des sacs à dos et la main dans le sac à dos à l'avant, c'est pas que des copains. Bon. Alors, après, sur les lacrymos, alors, du coup, bah, évitez de trop courir. Un tissu imbibé avec de l'eau, ça peut permettre de mieux les supporter. Le sérum physiologique dans les yeux. Surtout, ne pas se frotter les yeux et ne pas, surtout avec ses vêtements, en fait, parce que ça reste imbibé. S'il y a une personne qui est un peu perdue dans les lacrymos, la gripper et l'emmener avec vous. En cas d'arrestation, alors là, c'est la phase 3. Du coup, en cas d'arrestation, on peut tenter d'agripper la personne. Après, l'idée, c'est d'essayer de ne pas se faire choper aussi au passage. Si vous voyez quelqu'un qui est arrêté et que c'est trop tard, il faut lui demander de crier son nom. Parce qu'en fait, ça permet en fait, de relayer le nom au mouvement, aux caisses de solidarité, qui après, en fait, peuvent filer un coup de main juridique et contacter aussi les proches pour pas que les proches se retrouvent tout seuls avec un pote en garde à vue. Et donc là, la phase 4, en garde à vue. Alors, du coup, si c'est un contrôle d'identité, ça ne doit durer que 4 heures. Si c'est une garde à vue, entre 24 et 48 heures. Et maintenant, depuis la réforme de 2011, on peut demander un avocat. Donc c'est obligatoire. Et on peut refuser de parler sans son avocat.
Dès le début, on peut demander l'avocat.
Ouais, dès le début. Et il doit arriver dans les 2 heures. Alors après, apparemment, les flics, ils font pression autour de ça, en disant on n'a pas réussi à le contacter et tout. Et du coup, c'est du mytho. Il faut essayer de tenir ça si c'est possible.
On peut demander un médecin aussi, non ?
On peut demander un médecin, ouais. Juste sur l'avocat, il faut faire attention, parce que c'est pas parce qu'on a un avocat qu'on peut dire ce qu'on veut. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont représentés dans le commissariat par des avocats commis d'office. Et que les avocats commis d'office, ils peuvent conseiller de faire des trucs qui sont pas forcément stratégiques, comme dire tout ce qui s'est passé ou donner son ADN. Du coup, sur le médecin, ouais, c'est super important de le demander. Parce que ça permet un truc, c'est que s'ils n'envoient pas le médecin, ça fait vice de procédure. Et du coup, la procédure est annulée. Donc à tous les coups, il faut demander un médecin, avec un peu de chance, s'il ne vient pas, bah c'est bingo. Alors, du coup, petit rappel aussi, c'est qu'on est obligé, dans une garde à vue, de donner que son nom, sa date de naissance et son adresse, et que tout le reste, on n'est pas obligé de parler, et que tout ce qu'on va dire, en fait, ça risque d'être utilisé contre nous au procès. Et que du coup, si vous avez quand même parlé, bien vérifier le procès verbal, que ce soit bien vos paroles, avant de le signer. Voilà, donc bien prendre le temps de le relire. Après, par rapport à l'ADN qui est de plus en plus demandé, même pour les tout petits délits, faut savoir que vous pouvez refuser de le donner. Alors c'est un délit de faire ça, 1 an de prison et 15 000 euros d'amende dans la loi, sachant que généralement c'est pas appliqué, enfin ça fait plus des procès à rallonge qui se répètent tant que l'ADN n'est pas donné, et que quand les gens sont soutenus, souvent il n'y a pas de poursuite. Voilà. Et la dernière chose, c'est la comparution immédiate. Donc en fait, le principe, c'est que de plus en plus, enfin maintenant dans les mouvements sociaux, à chaque fois, moi, les derniers trucs que j'ai entendus, c'est qu'ils font ça, c'est que quand ils vous arrêtent, vous faites la garde à vue et vous allez passer directement en comparution immédiate. Le risque, en fait, c'est qu'on n'a pas le temps de préparer sa défense, on se fait beaucoup plus aligner. Et en plus, les peines, elles sont en moyenne plus lourdes pendant les comparutions immédiates que pour un procès qui va avoir lieu longtemps après. Du coup, voilà, donc l'idée c'est d'essayer de les éviter. Après, quand on veut éviter la comparution immédiate, ça veut dire qu'il faut avoir des garanties de représentation. Donc avoir des papiers comme quoi on est un gentil étudiant ou un gentil travailleur, qu'on fait partie d'associations, etc. Et que du coup, si on n'a aucune garantie de représentation, on risque de faire de la préventive avant le procès. Donc c'est un peu un choix que vous avez à faire. Et pour les gens qui ont des potes qui sont arrêtés pendant les manifs, un des trucs à faire rapidement, c'est d'aller constituer un dossier avec tous des engagements associatifs qu'il peut avoir, essayer de choper des engagements associatifs, des lettres de prof, des lettres d'employeur, de collègues, etc. Tout ce qui fera que dans un procès, ça montre que c'est une gentille personne. Et sinon, dernier petit conseil, après la manif, prendre un temps pour se retrouver avec les copains, pouvoir discuter de comment ça s'est passé, comment chacun a vécu les choses, et ce qui est prévu pour la prochaine manif pour être de plus en plus organisé.
Et tout ceci, vous pouvez donc le retrouver sur Rebellion. C'est un article de la Caisse de Solidarité. Ouais. Et vous pouvez aussi retrouver leur numéro de téléphone qui peut être bien utile en cas d'arrestation.
Si jamais vous n'avez pas d'autres contacts, c'est bien d'avoir ce numéro pour signaler, ou même, si ce n'est pas vous qui êtes arrêté, pour signaler les personnes ou faire des témoignages, etc.
Et alors, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à aller en manif, notamment pour les prochaines, le 24 mars et le 31 à Lyon et partout en France. Et pour vous donner un petit peu d'envie, on va vous redonner un appel qui est paru sur lundi matin.
Et oui, c'est ça, un appel au doux nom de Le Monde ou Rien. On rajoute oh là 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 là.
PNL.
Petit clin d'œil. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il dit cet appel? Enfin, je pense qu'on va vous en faire un résumé moche et que le mieux, c'est d'aller le lire, mais il y a quelques idées qui donnent la pêche. Alors la première, c'est d'arrêter en fait de comparer les mouvements qui ont lieu avec le CPE et d'arrêter d'être dans un truc un peu nostalgique, et surtout de cracher sur les syndicats qui viennent tenter de récupérer le mouvement, et en rappelant que dans les mouvements sociaux comme le CPE, comme cette année et comme d'autres mouvements, souvent c'est les organisations qui suivent et pas les jeunes qui suivent les organisations.
Comme en mai 68, Pépé.
Comme en mai 68, on va y venir. Il rappelle aussi dans cet appel que c'est pas une loi qui pose problème, mais c'est toute la société dans son ensemble, et que du coup, c'est ce qui se passe maintenant avec la loi du travail, c'est... Enfin, ça pète maintenant, mais c'est aussi toutes les lois qu'il y a eu sur l'état d'urgence, sur les lois sur la migration et sur tout ce qui est passé.
C'est un peu la cerise sur le gâteau.
C'est exactement ça. Ils le disent. Et c'est tous ces mots qui s'agrègent et prennent masse maintenant. Voilà. Et un petit clin d'œil aussi aux vieux qui nous font la morale dans les manifs pour dire quoi? Pour dire, parce que souvent le discours c'est de dire on a été trahi par le PS, on pensait en votant pour le PS que nanana. Et là, les gens qui ont écrit cet appel, ils disent mais non, vous avez pas été trahi, vous êtes juste laissé tromper. Et c'est bien d'être vieux, mais c'est bien aussi d'avoir des souvenirs. Et c'est comme en 83 par exemple. voilà. Et que ça n'a pas changé, et qu'en fait le programme ça reste le même depuis 35 ans. Voilà, après que vous dire d'autre qui est chouette dans cet appel? Voilà, ils disent que au pire, tant qu'à discuter de la loi de travail, c'est discuter du travail en général, et c'est parce que la question du travail, c'est la question de l'emploi, de la vie, et que le travail tel que nous le voyons autour de nous, c'est juste la négation de la vie en version merde. Voilà.
Comme c'est bien dit.
C'est mal lu, mais c'est bien écrit, on va dire. Tac. Voilà, je me suis complètement perdu.
Et donc tout ceci, le temps qu'on retrouve le passage vraiment intéressant, on peut le retrouver sur lundi matin.
Et si, voilà, ouais, après que ce qui fait peur, c'est la possibilité d'une perte de contrôle par les organisations qui sont venues se greffer sur ce mouvement. Et aussi une petite réflexion, donc très succincte, sur la violence. Mais juste un rappel que souvent il y a une grosse critique de la violence et que ça porte rien. Et que, enfin, tout mettre sous le mot de la violence, c'est condamner plein d'actes et tout, alors qu'en fait, faire des mouvements violents sur des cibles précises, eh ben, il y a de grandes chances que le reste du mouvement suive. Par exemple, en allant saccager le MEDEF ou saccager le PS, ces choses-là, il n'y aura pas grand monde pour aller condamner ça, et il y a de la violence qui est productive, et il faut taper fort le monde ou rien.
Bon, eh bien, sans transition aucune, c'est ce qu'on a noté sur notre fil, on va parler du collectif Puce.
Alors là, je vais vous le dire tout de suite, c'est moins bien, donc vous n'êtes pas obligé d'aller le lire. Mais c'est sur la revue, j'ai perdu le nom, Regard. Et là, ils sont allés interviewer un spécialiste, donc il s'appelle Robbie Morder, ce qui est vraiment un nom de spécialiste, on remarque. Donc, c'est un gars qui bosse au germe. Robbie Morder du Germe, qui a le groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit, Robbie, dans cette interview? Alors déjà, il dit qu'en fait, les médias qui s'étonnent de la participation soudaine des étudiants et des lycéens, eh ben, c'est juste parce qu'ils ne s'étaient pas étonnés qu'en fait, il n'y a jamais eu d'arrêt de la participation dans les mouvements des jeunes, et que, par exemple, il y avait eu les grèves et sur la réforme des retraites, qu'il y avait eu l'affaire Leonarda qui avait mobilisé les lycées, et que c'est juste en fait un point de vue des médias qui masque ça, et qui tout d'un coup s'en étonnent, mais ils s'étonnent de leur propre étonnement en fait.
Ils s'en étonnent à chaque fois.
C'est ça, ils s'étonnent d'être étonnés, mais ils disent, bon bref. voilà, il retourne par exemple sur la loi LRU en disant que ça a été beaucoup, beaucoup ignoré. Après, il donne quelques chiffres. Alors moi, je trouvais ça fou. Il y a 2,5 millions d'étudiants en France. Donc voilà, ce serait bien que tout le monde sorte les doigts du cul. Alors là, c'est petit clin d'œil à Jackie et Corinne, voilà, avec qui on a longuement débattu, donc Jackie et Corinne de la CGT, qui disaient mais vous pouvez pas comprendre ce que vous êtes étudiant, donc ils nous connaissaient pas, mais on avait l'air d'être étudiants peut-être, parce que les étudiants, voilà, ils travaillent pas, ils sont pleins de fougue comme ça. Et ben Robbie, qu'est-ce qu'il nous rappelle, c'est qu'il y a 5 à 6% des étudiants, enfin que 5 à 6% du salariat est constitué d'étudiants, et que, alors si on prend les statistiques dans l'autre sens, il y a 45% des étudiants qui travaillent. Donc en fait, les étudiants qui vont avoir des envies de tout péter quand ils parlent du travail, c'est peut-être juste qu'ils ont bien le pied dans le monde du travail et qu'ils se rendent bien compte de ce que c'est. Et Robbie, je pense qu'il a lu Le Monde ou Rien, parce qu'il dit dans les périodes de mobilisation, ce sont les jeunes qui manipulent les partis et les organisations qui les entraînent sur le terrain. Donc voilà, c'est la grande convergence des flûtes.
Merci. Merci Roby. Tu nous fais un petit truc de PNL en transition pour le
non, non, pas non, du tout. Bon, alors, va... C'est complètement sexiste PNL.
Ouais, mais le monde ou rien quand même.
Ouais. Oh là 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 là.
Collectif Puce en lutte, alors c'est,
voilà,
qui,
bah c'est voilà, c'est moi, bah parce que le monde ou rien, donc c'est voilà, bah un petit peu, c'est un toit ou rien, Puce, du coup, Puce, c'est les professionnels de l'urgence sociale qui seront en grève le 24 mars à partir de 13h30 et qui vous invitent à un rassemblement place de la République entre 16 et 19h. Alors pourquoi ils sont en grève, Puce, ils sont en grève parce que bah, le 31 mars, c'est la fin du plan froid et donc du coup, ça veut dire fermeture de toutes les places d'hébergement du plan froid, remise à la rue de centaines de personnes et de familles. Et donc aujourd'hui, ils rappellent que bah, c'est quand même plus de 1500 personnes qui appellent le 115 chaque jour et qui du coup bah, se retrouvent sans place d'hébergement et que bah, en plus de ces 1500 personnes, on va refoutre à la rue tous ceux qu'on avait hébergés pendant le plan froid. Concrètement, ils se retrouvent dans une situation où ils se retrouvent en train à faire le tri arbitraire un petit peu des gens, essayer de trouver la réponse la moins pire en fait à la situation des personnes, trouver le ménage ou la personne qui aura le plus besoin d'un hébergement par rapport aux autres. Et donc c'est une situation qu'ils peuvent plus supporter. Donc du coup, ils exigent un, la non remise à la rue des personnes hébergées dans le cadre du plan froid, et deux, la création de places d'hébergement pérennes et surtout adaptées à la demande et aux besoins des personnes accueillies. Donc si vous voulez les rejoindre, c'est donc le 24 mars entre 16h et 19h, place de la République à Lyon.
Et vous y serez sans doute dans la rue puisque c'est une date de grande manif, c'est le 24 mars.
Ça tombe bien. Plus qu'à suivre.
Parfait.
Convergence des flûtes.
Ouais. Info beaucoup plus légère. On va vous parler de Grande Zéro. Il y a concert ce soir et demain. Entretien.
C'est le Canu Info du vendredi. Ouais. Non, cette semaine, on est allé voir les mecs du Grande Zéro. À voir là. La semaine dernière, c'était Travaux à Grande Zéro. On a rencontré Florian et Pierre, actifs depuis au moins 6 ans dans le collectif. Ils nous parlent de l'histoire de l'association et des lieux occupés, du fonctionnement de GZ et de l'actualité depuis que l'asso s'est vu refiler une friche au 60 avenue de Bolène, à Vaux-en-Velin. Pour rythmer le tout, on pourra entendre trois groupes qui passent en concert hors les murs en mars et en mai. Vous pouvez actuellement entendre Golden Oriole, suivront ensuite Les Morts Vont Bien, et on terminera avec Eric Copland. Bonne écoute sur Radio Canu.
Ça fait maintenant plus de 11 ans que ça a été créé. Donc là, on va raconter toute la partie histoire. Moi, je ne l'ai même personnellement pas vécu, donc je raconte ce qu'on m'a raconté. Mais donc, bah, tout, de toute façon, l'histoire est connue. Ça a commencé par un squat. Donc du coup, il y a 11 ans, une équipe de gens qui organisaient des concerts ou qui voulaient en organiser. Il y avait beaucoup moins de lieux à l'époque à Lyon. Et il y avait plein de tentatives qui avaient dû arrêter. À l'époque, c'était le Café Musique qui venait de fermer. Il y a une petite équipe de gens qui sont créés autour de ce vide de lieu pour les musiques indé expé, qui n'avaient pas de lieu pour faire les concerts qu'ils voulaient, et ou alors qui voulaient un peu les sortir des caves et des bars et des trucs un peu à toute petite jauge, un peu anonyme. Et à ce moment-là, en cherchant des lieux en ville, ils ont trouvé qu'il y avait, on le savait, mais il y a beaucoup de bâtiments publics vides, laissés vides en jachère, en attente de projets immobiliers, etc. Et ils ont décidé du coup de squatter un bâtiment qui était vide à Gerland. Et il y a eu plein de phases différentes. On est resté très longtemps à Gerland, donc dans le quartier du 7e, à Gerland. Finalement, on a bougé quasiment de 2-3 rues dans cette zone. On est resté longtemps dans un seul lieu, donc le dernier qu'on a eu, en zéro Gerland, qui était rue Prégaudry, qui se développant à l'intérieur de ce lieu a fini par être un grand espace où il y avait à la fois des locaux de répétition donc pour de la musique, des locaux de création et des bureaux d'association, donc il y avait tout plein de bureaux et d'espaces de travail et des activités aussi de concerts qui sont passées là-bas pendant plus de presque 6 ans.
Ouais, 6 ans,
et qui a dû s'achever, donc si on... Putain, je suis très mauvais sur les dates, mais en gros, on a eu des actes... c'était quand? C'était en 2011 non.
En 2012
2012, on a dû... on est parti dans 2012
En 2013
Ouais, on est super fort avec le calendrier, on devrait avoir une petite frise.
En 2000, ouais, enfin... Il y a eu différentes périodes, des périodes où on a eu... le droit de faire des concerts et on en a fait pas mal, des périodes où on n'avait pas le droit mais on en faisait quand même, des périodes où on n'avait pas le droit mais on n'en faisait pas, et enfin bref, ça a un peu mal alterné, mais on a toujours réussi à garder une activité, que ce soit en hors les murs ou en sous-marin ou officiellement pour la fin de la période. En tout cas
au Rail Théâtre aussi, on a fait beaucoup de dates à Vez dans une salle privée qui était le Rail Théâtre, qui a fermé également. On s'est retrouvé un moment donc avec c'est ce lieu qui fermait le Rail Théâtre et le lieu de Gerland où on nous demandait de partir parce qu'ils voulaient le détruire pour faire un projet immobilier. Et on a fini par trouver un accord sur ce lieu où on est maintenant, là, donc à Vaux-en-Velin, qui donc est une friche industrielle qui est au terminus de la ligne A, où on a 2000 mètres carrés. Et on a finalement reforcé un peu la main, tout s'est débloqué donc à l'été 2014. On a signé donc un bail c'est pas un bail précaire, c'est une convention, donc pour 6 ans, pas de loyer, on paye l'électricité, l'eau, etc. Et on doit le rénover, c'est-à-dire que le bâtiment où on est, il y a deux bâtiments, il y a un bâtiment de bureau de 500 mètres carrés et un grand hangar de 1500 m² qu'on doit transformer. Et là, depuis donc 2014, on a travaillé sur cette rénovation. Et voilà, on en est peut-être je me trop loin sur l'histoire. Sens strict, il y a une association, Grande Zéro, et il y a des membres de cette association qui gèrent l'association Grande Zéro en tant que telle, et c'est aussi un nom qui rassemble du coup plein d'activités sous ce nom ou avec ce nom, et qui rassemble plein d'organisateurs de concerts à chaque fois qu'ils organisaient des concerts à Gerland là-bas, ou quand ils organisent des concerts hors les murs pour nous, avec nous. C'est à la fois donc une petite structure, hein, finalement, c'est une quinzaine de personnes qui se réunissent toutes les semaines et qui gèrent les questions courantes de « Ah bah tiens, il faut acheter telle connerie, il y a telle demande de projet », enfin qui gèrent la gestion courante. Et autour de ça, bah, c'est beaucoup plus de monde qui sont autant tous les groupes qu'on a pu héberger à l'époque de Grande Zéro Gerland et qui continuent de nous aider, ou toutes les... tous les organisateurs de concerts qui viennent nous filer la main de temps en temps aussi, et qui c'est par exemple, tous les gens qui étaient hébergés à Grand Zéro Gerland ou qui le seront ici, ils auront leur propre structure ou leur propre identité en tant que projet. Mais Grand Zéro, c'est un peu le parapluie qui permet de négocier aussi pour tout le monde. C'est la structure qui négocie les lieux, quoi, aussi, un peu quelque part. Mais par ce nom et par cette structure et par cette identité commune, quelque part, ou partagée, ça nous a permis de négocier en étant plus forts et plus nombreux face à la ville que, par exemple, si ça avait été chacune des activités de Grand Zéro, hébergées par Grand Zéro, qui se bataillait pour son lieu. On utilise aussi ce nom et ce projet Grand Zéro en général pour être plus forts et plus nombreux. Clairement, on s'est construit en arrachant quelque chose par un bras de fer, donc c'était politique dès le départ. Et puis tout le discours sur les bâtiments vides, c'est quelque chose qu'on porte, et même sur plein d'autres sujets, que ce soit l'affichage libre ou le flicage autour des concerts. On a un discours critique, on essaie d'avoir un discours critique sur la façon d'organiser un concert, la façon de traiter le public, les artistes, etc. Mais de fait, je pense qu'il y a quand même des gens, j'espère, quelque part à la ville, qui se sont rendus compte, ah ouais, mine de rien, quand on les laisse faire des choses et qu'on laisse des gens passionnés, motivés à programmer des trucs, eh ben ça c'est utile à beaucoup de monde du public. Ils le font pas que pour eux, que pour genre eux, pour être conformes dans leur lieu au show, quoi. Ils le font aussi pour du monde. Et en plus, ce qui passe, ça marche, quoi. Ça a pu quand même pas mal aider, quoi. Quand tu regardes sur les années où on était les plus actifs, beaucoup de trucs que pouvaient faire l'épicerie moderne ou le marché gare ou les nuits sonores, même, hein, dans leur domaine rock, entre guillemets, on pouvait facilement dire bah ouais, ça, ouais, on a déjà fait, quoi.
J'étais là d'abord.
Donc on a signé en juillet 2014, mais on a commencé un peu les travaux avant. Donc il y a à peu près 8 ans qu'il était vide.
Alors vous avez fait quoi dans ce bâtiment ?
Alors on a installé ce qui va devenir plus tard des ateliers. Donc on a déjà prévu un atelier de couture, un atelier de sérigraphie, un atelier d'électronique informatique.
Donc on a ce bâtiment qui était donc les locaux administratifs de l'entreprise qui était là avant. Et là, maintenant, on a donc un grand hangar, une grande dalle de 1500 m², donc un grand espace couvert, qu'on va donc cette fois-ci transformer en salle de concert, une vraie salle de concert, et en locaux de répétition et un atelier bois-métal. Et l'imprimerie aussi irait là-bas, parce que du coup, le collectif d'imprimerie, à terme, irait dans ce hangar. Et d'autres projets à voir aussi, hein, puisque en gros, le but, c'est de faire une salle de 500 qui pourrait accueillir 500 personnes une dizaine de locaux de répétition, on va dire 10 locaux de répétition, plus du coup des ateliers un peu annexes, bricolage, imprimerie, et ces pièces du coup sanitaires, salle catering, toutes ces choses-là, quoi. On fait tous les travaux, le chantier, c'est un chantier ouvert et participatif, on fait tout nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est... On est à la réalisation du projet, on a des gens qui nous encadrent sur quelques trucs très spécifiques. On avait la chance d'avoir en interne des gens qui se connaissaient en électricité ou dans des choses très précises en bois, etc. Mais sinon, sur les trucs qu'on ne connaît pas, par exemple sur la plomberie, on a tout refait la plomberie du bâtiment A, le bâtiment de bureau. On a eu un plombier qui est venu nous montrer comment souder le cuivre, comment installer le cuivre, etc. Et une fois qu'on a appris ça, on remontre aux gens qui viennent travailler. On s'auto-forme sur ce projet et on forme les gens aussi qui viennent aider, s'ils ont envie, en fonction aussi de leur temps, quoi. Et donc c'est ouvert à tout le monde, le chantier.
Thank you.
pour le projet là ici, on a accepté aussi de se frotter à ce chantier qui est quand même très compliqué. En vrai, c'est beaucoup de mètres carrés à rénover et à construire. La ville nous a promis, donc la ville de Lyon, même si on est à Vaux-en-Velin, donc c'est bien la ville de Lyon qui nous a promis 300 000 euros d'investissement. C'est-à-dire qu'on a une subvention d'achat. C'est que pour de l'achat, pour acheter des matériaux et des services. On peut pas se payer avec. C'est vraiment que pour des factures. Ils nous ont promis cette somme qu'on a eu du mal à réobtenir à la fin, mais là maintenant c'est bon, on l'a quasiment complètement voté. Donc pour la perspective, avec 300 000 euros, ou plutôt 100, si on faisait tout faire par des pros pour 2000 mètres carrés, là ce qu'on a et pour le projet qu'on a, ça coûterait plutôt 1 million, 1 200 000 euros. C'est l'argent qu'ils mettent en général pour des projets comme ça. Le but c'est pas d'atteindre 1 million par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Le truc c'est que le but c'est de trouver des solutions de construction et des manières de faire aussi qui peuvent rentrer dans ce cadre-là d'argent public et de fonds propres et en faisant les choses nous-mêmes. Le temps qu'on passe sur le chantier, la méthode qu'on utilise et la relative lenteur, hein, c'est que au lieu de demander, comme j'expliquais tout à l'heure, au lieu de demander à un plombier de faire toute la plomberie, on a préféré du coup payer un plombier que 2 jours ou 3 jours à nous montrer le truc et aller moins vite qu'un plombier techniquement. Mais faire le truc nous-mêmes, on économise des trucs comme ça, on recycle beaucoup, on fait beaucoup de collectes de matos et on réemploie beaucoup de trucs. Et l'autre truc qui nous permet de faire le chantier avec ce budget-là, c'est on utilise des techniques de... Donc ça, c'est la phase à venir, donc là où on va faire plus de maçonnerie. On va construire de manière un peu, entre guillemets, originale. On va utiliser des matériaux qui sont peu fréquents mais qui sont assez bruts et assez naturels et peu chers dans cet état-là, quoi. On va utiliser beaucoup de bois, terre, paille, tout plein de constructions et on va fonctionner beaucoup en workshop, en atelier, où on va du coup essayer de planifier le truc autrement qu'ici, où là le chantier est ouvert tout le temps, on va dire, sur ce bâtiment depuis un an et les gens venaient en fonction de leur dispo. Là on va essayer de caler des moments très spécifiques, par exemple à apprendre à faire de la maçonnerie avec de la paille. Donc il y aura des grosses sessions de workshop plus spécifiques, on espère, qui motiveront du monde à apprendre tout en nous aidant à le faire. On est très mauvais en communication, donc il faudrait qu'on mette à jour un peu notre site pour montrer ce qu'on est en train de faire. Donc on va dire en avril...
Fin mars, début avril, ouais.
Fin mars, début avril, c'est la maçonnerie qui commence, quoi. Et l'autre actu, c'est qu'on va aussi avoir peut-être besoin d'aide. Ça sera plus pour mai, juin. On a beaucoup d'espace extérieur autour des deux bâtiments qu'on a, donc ce hangar et ce bâtiment de bureau. On a aussi beaucoup de verdure et on va demander à refaire des concerts en extérieur, ce qu'on a pu faire l'automne dernier. Donc c'est réaménager un peu un extérieur et faire comme si c'était un parc, comme un concert dans un parc, etc. Donc faire des concerts dehors. On aura besoin de soutien autant au public que sur ce type de soirée, que des gens qui auront envie d'aménager, d'organiser ça. Ça c'est plus au mois de mai, un peu avant, parce qu'on va préparer avant, mais ça sera dans cette période-là.
Grande Zéro, ce soir, c'est soirée-concert dans le cadre des 8e rencontres de le recyclage, qui organise également demain une vélo-parade 16h30 à Charpennes. Et puis demain, en Grande Zéro aussi, avenue de Bolène à Vaux-en-Velin, il y a une journée-concert de midi à minuit. Voilà.
Donc sans transition aucune, comme tout à l'heure, on va vous parler de l'affaire Wissam El Yamni, puisqu'il y a un peu un petit rebondissement qu'on pourrait dire. Donc petit rappel, il y a un peu plus de 4 ans, donc le 1er janvier 2012, Wissam El Yamni est interpellé par des policiers clermontois. La violence de l'arrestation le plonge dans le coma et il succombera à ses blessures 9 jours après. Donc pour les proches, C'est le début d'une longue et difficile bataille judiciaire, donc pour faire reconnaître qu'il a été tué par la police. Donc une bataille qui se joue d'abord sur le champ des expertises, donc avec un premier rapport, donc celui de l'inspection générale de la police, qui révèle que la victime, lors de son transport au commissariat, la victime a été victime de la technique du pliage. Donc la technique du pliage, si vous ne savez pas ce que c'est en gros, c'est la personne qui est maintenue de force, la tête penchée jusqu'au genou, dans une position qui coupe le souffle et donc du coup qui empêche de respirer et donc de crier ou de parler. Et c'est à l'origine de nombreux décès. Et donc ça a été utilisé lors de son transport au commissariat. Donc ça, c'était le premier rapport. Un second rapport estimera que la mort est due à l'allongement. Alors là, c'est un truc un peu médical. C'est à l'allongement du temps qu'on appelle du temps QT. Alors en fait, dans un électrocardiogramme, il y a un signal électrique qui est enregistré et Q et T, c'est deux points de cet électrocardiogramme. Et en fait, plus ils sont éloignés, ben, plus ça traduit d'une anomalie cardiaque. Et donc, ils ont estimé que l'électrocardiogramme présentait un temps QT qui était plus long que la normale. Donc ça, c'était le donc c'est en gros, ça, s'il est mort, c'est un peu de sa faute, on va dire. Ça voulait un peu dire ça. Et après, il y a eu un autre rapport d'experts qui va prétendre que c'est un mélange d'alcool et de cocaïne qui serait à l'origine de l'arrêt cardiaque. Et c'est ce dernier point qui a été retenu par la justice. Donc, bien qu'aucune de ces expertises ne réponde intégralement au questionnement soulevé par sa mort, donc la chambre d'instruction a déclaré en 2015, ça c'était en 2015, décide d'annuler la mise en examen donc des deux policiers incriminés, et puisque le tribunal décide qu'aucun lien ne peut être fait entre le travail des policiers, enfin le travail entre guillemets, ouais, et le décès de la victime. Et ce, malgré de nombreuses preuves, dont des photographies du corps qui sont prises à l'hôpital, qui montrent clairement des marques de serrage au niveau du cou et de nombreux bleus. Et donc du coup, le tribunal a choisi le dernier rapport, donc qui concerne la toxicologie. Et c'est justement là-dessus qu'il y a une nouvelle expertise qui vient d'être faite. Et donc un certain Pascal Kintz, donc reconnu comme étant l'un des plus grands toxicologues au monde, il démontre clairement que Wissam n'était pas sous l'emprise de drogue au moment de l'interpellation. Donc le rapport est formel, le décès donc de Wissam El Yamni n'a pu être causé par un cocktail toxique comme l'a retenu le tribunal. Il faut signaler que c'est pas le seul rapport. Il s'agit du deuxième rapport d'expertise indépendant qui exclut les prétendues origines cardiaques et ou toxiques de ce décès. Donc ça, c'est une espèce de mini victoire pour les proches de la victime. C'est plutôt une bonne nouvelle car en fait, c'est une nouvelle pièce qui pourrait permettre la réouverture du dossier pour que soit enfin reconnu que sa mort est suite aux violences policières. Donc voilà, c'était pour faire un petit point sur cette affaire. Donc voilà.
Et oui, comme on dit en manif, flic, porc, assassin.
Mais ça me fait penser à un proverbe auvergnat qui dit « Tout le monde déteste la police ».
Ils sont chouettes, auvergnats.
Et au niveau national, moi je vais vous parler rapidement de comment le gouvernement fait des lois anti-immigration en cachette. Parce que du coup, tout récemment, le gouvernement a introduit dans un texte sur l'économie maritime une disposition qui interdit aux migrants l'accès aux ports. Ne cherchez pas le rapport entre l'objet du texte et l'amendement, il n'y en a pas. Alors, une disposition dont la loi sur l'économie maritime a été glissée discrètement par le gouvernement, alors qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec l'objet du texte. Cet amendement crée un délit d'intrusion dans les zones portuaires non accessibles au public, les zones d'accès réservées, les ZAR. Donc ce délit Il a désormais, il sera, en fait le texte il a été adopté à l'Assemblée Générale, il passera au Sénat bientôt. Donc cet amendement crée le délit qui est puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € pour les personnes qui rentrent dans des zones d'accès réservées dans les ports. Donc bien évidemment on parle des migrants sans le dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'au mois de juillet, lors de l'examen du projet de loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale, le gouvernement avait déjà tenté de déposer cet amendement. Mais à l'époque, l'exposé des motifs était très clair. Il visait spécifiquement la pénalisation des migrants qui s'introduiraient dans le port de Calais afin de tenter la traversée pour l'Angleterre. Je peux vous citer d'ailleurs ce que le rapporteur avait dit à l'Assemblée, c'était... Le dispositif juridique actuel, réprimant d'une simple peine d'amende l'intrusion irrégulière dans les ZAR, n'ouvre pas les moyens d'une réponse efficace et adaptée. Il ne permet notamment pas de recourir à une garde à vue, ce qui peut s'avérer utile pour détecter l'existence d'éventuelles filières et identifier les passeurs. Donc, voilà, ça c'était à l'époque de la loi sur la gestion de la migration. Mais les députés socialistes s'y étaient opposés, les gouvernements avaient fini par retirer son amendement avant même la discussion. Mais voilà que l'amendement est de retour, dont le texte sur l'économie maritime. Cette fois-ci, à l'Assemblée nationale, le rapporteur socialiste Arnaud Leroy prend soin de retirer les références à Calais. On parle juste de la sûreté des ports en général. Et la disposition est passée comme lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Manifestement, le gouvernement a compté sur le fait que l'économie maritime ne mobiliserait pas les foules et que les députés spécialistes des transports seraient moins regardants que ceux de la commission des lois. Et il a eu bien raison. Donc l'amendement a été intégré au texte, il est devenu l'article 12 ter décies et il sera probablement adopté sans difficulté au Sénat. Voilà pour cela. Je passe la parole.
Et pour le gaz de schiste.
Et voilà, et donc j'ai exactement une minute pour vous dire pour vous dire deux petites brèves sur le gaz de schiste. J'espère que ce sera bref. Donc, vous en avez parlé il y a quelques semaines, évidemment, puisqu'on vous en parle toutes les semaines. Donc, la société Schubach avait réclamé des millions d'euros à l'État français pour s'indemniser de l'interdiction pour, leur permis d'exploration de gaz de schiste. Donc, pour rappel, c'est une des grosses boîtes avec Total qui ont obtenu leur permis d'exploration en 2010, donc en France. Et donc, ils se l'ont fait sucrer en 2011 suite à la loi. Et donc, depuis, ils essayent un peu de le récupérer. Et donc là, leur dernier truc, c'était d'attaquer l'État français et de leur demander des indemnités. Et donc, ils demandaient 117 millions d'euros et ça a été refusé, youpi tralala. Et on est content qu'on ne leur file pas autant de thunes pour leur saloperie de gaz de schiste. Donc voilà.
Ça, c'est bien. Une info impartiale.
Merde, je suis déjà en retard. Et ensuite, Total, quant à lui, a récupéré son permis en début d'année, mais donc le PDG, Patrick Pouyanné, a déclaré qu'il renonçait au permis d'exploration-exploitation de Montélimar. Alors, on ne sait pas trop si c'est du bluff ou pas. C'est déjà un truc qu'il avait plus ou moins annoncé en disant que Total ne passerait pas en force, que le prix du baril était trop cher et que ça valait plus le coup, et que de toute façon, ils exploitaient déjà d'autres pays et que ça valait plus le coup de le faire en France. Et donc, du coup... Donc ça c'est une annonce qui n'est pas vraiment officielle, donc il n'y a pas eu de Total n'a pas de truc écrit qui voilà, et il y a toujours le procès en cours en justice parce qu'il y a eu un appel de la part du ministre de l'Environnement sur la décision qui avait été prise pour que Total récupère son permis. Et je rappelle juste que en fait Total c'est un des combats par rapport au permis, mais actuellement le principal reste la lutte sur la réforme du code minier pour inclure l'interdiction d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste partout en France. Donc voilà, c'était pour le gaz de schiste.
Alors, gaz de schiste ou pas, comme le disait mon voisin de gauche, Total ou pas, tout niquer devient vital.
Ah, c'est moi qui suis à la gauche. Putain, merde.
Du coup, hop. International, 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 international.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Donc pour la rubrique internationale, on va aller à Bruxelles où aujourd'hui, vendredi 18 mars, il y a un sommet. Et entre l'État de l'Union européenne et la Turquie, et un accord a été signé sur un nouveau plan de gestion des réfugiés et des migrants. Un plan qui permet surtout à l'Union européenne de repousser les migrants hors de ses frontières et de sous-traiter ses obligations à la Turquie. Donc rapidement, qu'est-ce qu'il prévoit cet accord ? Il prévoit le retour en Turquie de toutes les personnes arrivant illégalement, entre guillemets évidemment, sur les îles grecques de la mer Égée. Selon le principe du 1 pour 1. Donc pour chaque migrant qui arrive en Grèce et qu'on reconduit en Turquie, l'Europe va accueillir un Syrien réfugié en Turquie et le relocaliser dans l'un des États membres de l'Union européenne. Donc 1 pour 1, voilà. En échange donc de la contribution de la Turquie à la résolution de la soi-disant crise migratoire, la Turquie espère obtenir une aide financière supplémentaire de la part de l'Europe qui lui a déjà promis 3 milliards d'euros. La libéralisation des visas pour les citoyens turcs et l'accélération du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc, on n'a pas le temps de se poser beaucoup de questions, mais il y a une grande question quand même qu'on se pose, c'est qu'en est-il du droit d'asile en Europe ? C'est-à-dire que donc, les sources elles sont assez floues, on parle de réfugiés, de demandeurs d'asile, de migrants, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais c'est sûr qu'avec cet accord, c'est que les Syriens qui seront considérés comme des véritables demandeurs d'asile qui pourront avoir accès en Europe. Et dans tous les autres pays du monde, on est très bien. Et au pire, on peut demander l'asile en Turquie, qui est très connue pour le respect des droits de l'homme. Super. En plus, entre autres, le droit d'asile, la Turquie elle n'a pas pleinement adopté la Convention de Genève sur le droit d'asile. Donc voilà, elle s'engage à gérer des demandeurs d'asile arrivés en Europe et refoulés en Turquie contre tout traité international. Tout va très bien. Donc je voulais vous lire un extrait du communiqué de Migreurope, qui est un réseau européen et africain qui réunit une cinquantaine d'organisations défendant les droits des migrants et de l'Association européenne pour la défense des droits de l'homme. Donc ces deux associations, ils ont écrit un communiqué le 16 mars en attendant le verdict de ces sommets à Bruxelles. Donc je vais vous lire un petit extrait. Les demandeurs et demandeuses d'asile qui arrivent dans l'Union européenne sont les rescapés d'Odyssée qui transforment la Méditerranée en fosse commune.